Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore au rendez-vous de Mélomanie cette semaine. Tous les chroniqueurs du magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale sont heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro et une émission au programme très dense. Il y a toujours autant de concerts à commenter, à annoncer et à présenter ces jours-ci. On ne va pas s'en plaindre et ceux que j'ai réunis dans ce studio ne s'en plaindront pas non plus. Les mélomaniaques sont venus en force et ils ont pour nom Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Également présent, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour La Voix du Midi et le site Culture 31, et l'autre Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Pour ce numéro, nous avons aussi le plaisir de recevoir un invité d'honneur, Claude Roubichoux, flûtiste de l'Orchestre National du Capitole, fondateur et directeur de l'Orchestre Mozart, raison pour laquelle nous le recevons aujourd'hui avant le concert que donne la formation qu'il dirige, ce dimanche au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Nous allons en parler avec lui tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'actualité musicale de la semaine dernière qui va nous intéresser lors de la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Et récemment ont eu lieu deux concerts très attendus à la Halle au Grain de Toulouse, celui donné vendredi par l'Orchestre National du Capitole et le violoniste Daniel Lozakovic, celui donné lundi par Daniel Barenboim dans le cadre de la saison des grands interprètes. Nous allons revenir longuement sur le second dans une dizaine de minutes. Il y a déjà beaucoup à dire sur le premier. Il se trouve que nous étions tous présents dans la salle vendredi et que deux d'entre nous, Serge Krichewski et Claude Roubichoux, étaient à l'œuvre sur le plateau avec leurs collègues de l'Orchestre du Capitole. Je vais me tourner d'abord vers mes camarades Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu ce soir-là et notamment de la prestation du tout jeune Daniel Lozakovic lors de l'interprétation du concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch?
Hélas, je vais encore dire beaucoup de bien parce que c'était excellent. Alors nous l'avions déjà vu au cours de la saison dernière, il avait joué dans le poème d'Ernest Chausson. Déjà il avait surpris, il avait moins de 16 ans à l'époque. Là, il a 16 ans révolus et il nous a donné une interprétation mais incroyable du concerto de Max Bruch que l'on connaît, emblème romantique du concerto, proche du concerto de Brahms par le style, hein, qu'il précède d'ailleurs, hein, puisque on a quelquefois l'habitude de dire « Ah, mais Max Bruch a copié Brahms ». Ben non, puisque ça serait plutôt l'inverse. Eh bien, oui, alors ce Daniel Lozakovic, il est déconcertant. D'abord, il y a une maturité dans son jeu qui est incroyable pour cet âge-là. Une perfection technique, bon, ça va au-delà, hein, de la virtuosité. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la sensibilité avec laquelle il interprète ce concerto. C'est vraiment étonnant. Alors, il y a plusieurs qualités également qu'il faut souligner et qui sont liées à l'orchestre aussi. C'est le parfait équilibre entre le soliste et l'orchestre. Et aussi bien Daniel Lozakovic que Tougan Sokiev qui dirigeait l'orchestre ont su ménager les moments où le violon se fond dans le reste de l'orchestre et où il réapparaît pour apparaître en premier plan. Donc, vraiment, avec des choix de phrasé du violoniste qui étaient parfaits. Donc, j'ai été moi-même très ému d'écouter cette interprétation.
Anne-Marie.
Bien, je crois qu'après tout ce que vient de dire Serge, je pense que je suis dans la même veine, c'est-à-dire que ce garçon fait plus qu'étonner parce que depuis un an, nous l'avions donc entendu il y a un an, il a d'abord beaucoup grandi, donc il a l'air d'un jeune homme maintenant. Il n'est pas loin de ses 17 ans qu'il aura au mois d'avril. Et ce qui quand même étonne, c'est son naturel à faire de la musique. Il a l'air de jouer du violon,
de respirer avec le violon.
Le son est très beau, ta technique semble totalement maîtrisée. En même temps, ce n'est pas un phénomène au sens de phénomène qui cherche à briller. Et je crois qu'il fait de la musique avec beaucoup de naturel. Il ne lui reste simplement, c'est vrai, qu'à durer, à mûrir d'abord, c'est vrai, et ensuite à durer et à s'imposer dans un très vaste répertoire. Mais je crois que tel qu'il est aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de quasi miraculeux.
Comme nous avons autour de cette table deux des musiciens de l'Orchestre du Capitole qui ont accompagné Daniel Lozakovic, pas Claude Roubichoux, qui lui n'est intervenu que pour la quatrième de Shostakovich, on en parlera dans quelques minutes, mais vous, Serge Krichewski, vous étiez aux premières loges. Alors, vous avez répété avec Daniel Lozakovic avant le concert. Comment vous le trouvez ?
Moi, je n'avais pas du tout entendu l'année dernière. J'en avais entendu parler, puis j'avais vu effectivement que ça avait l'air d'un phénomène, hein, très très jeune homme. Bon, là, je dois dire qu'il a pris de plus en plus d'assurance au fur et à mesure. Bon, on a eu un petit peu de temps de répétition avec lui, et puis même le matin de la générale et au concert, c'était vraiment de plus en plus épanoui, présent. Voilà. Donc, oui, une très belle prestation. Bon, après, il y a les violonistes ou les pianistes qui gagnent des prix internationaux et qui après font leur carrière à partir de là. Lui, il a 16 ans, il a déjà fait le tour du monde, il a déjà travaillé avec les plus grands chefs, qu'est-ce qu'il lui reste encore à conquérir? Effectivement, durer, certainement, mais voilà, après se mesurer avec les autres, éventuellement ouvrir son répertoire, parce que là, il est dans les grands rails, là, hein, Chausson, Bruch, concerto magnifique, hein, bien sûr. Et...
Oui, puis dans la période où il monte, comme on dit, c'est toujours plus facile de monter. Après, lorsqu'on arrive au sommet, et il en est sans doute plus très loin maintenant, comme vous dites, il faut durer et ne pas se laisser griser par le succès. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, simplement rappeler qu'il a donné un bis, une pavane extraite d'une partita, probablement de Bach.
Sarabande, je crois.
Sarabande,
de Jean-Sébastien Bach.
Donc, là aussi, avec une espèce de détachement, de lumière, qui était tout à fait impressionnant.
Bon, alors, on va l'écouter. Le mieux maintenant, c'est d'écouter donc, ce très beau son, parce qu'il a un son magnifique, à la fois intense et délicat. On va écouter le tout début du premier concerto pour violon et orchestre de Max Bruch, le premier mouvement. Le début du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Max Bruch, interprété par Daniel Dozakovic, accompagné par l'Orchestre National du Capitole. C'était la version qu'on a tous entendue vendredi dernier à la Halle au Grain, où ce même soir était jouée une autre œuvre, la 4e symphonie de Chostakovitch, et là uniquement par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tugen Sokiev, bien entendu. Alors, on y était tous les cinq pour le coup. Alors, les commentaires d'abord d'Anne-Marie et Serge. Anne-Marie.
Ben, écoutez,
vous qui adorez Chostakovitch.
Oui, j'aime beaucoup Chostakovitch. Il est établi aujourd'hui quand même que c'est l'un des derniers grands symphonistes du XXe siècle avec Gustav Mahler qui est quand même est mort beaucoup
plus éloigné. Oui,
plus éloigné, non, mais
dans le temps,
qui ont quand même marqué
bien sûr.
Pour une nouvelle idée de la symphonie, qui ont montré que la symphonie est encore d'actualité avec des œuvres qui sont gigantesques souvent, mais tout de même assez nouvelles de langage. Et c'est le cas de cette 4e symphonie de Chostakovitch qui a été au début très mal accueillie dans l'ex-Union soviétique parce qu'on la traitait de formalisme. socialiste, c'est-à-dire qu'elle ne reflétait pas l'idéologie du peuple, etc. Donc c'était une œuvre trop formaliste, qui était trop compliquée, et c'est vrai qu'elle était quand même assez audacieuse au niveau du langage, au niveau du gigantisme de l'orchestre, au niveau de la façon de traiter les instruments, les groupes d'instruments, avec des recherches sonores assez nouvelles, c'est vrai. C'est une œuvre qui est assez nouvelle de langage, il y a des dissonances, même si elle n'est pas dans la veine du dodécaphonisme, comme on l'a dit au XXe siècle, sériel, mais c'est une œuvre qui a un langage assez nouveau et original, et qui exige beaucoup, beaucoup de la part des musiciens, de la part de tous les solistes de l'orchestre, et je trouve que l'interprétation que l'on a entendue l'autre soir, non seulement il y avait du souffle, de la puissance, un climat, une tension qui était maintenue, mais en même temps tout l'orchestre était tendu et surtout très virtuose dans tous les instruments, et c'était une très très belle leçon d'orchestre, en même temps que pour une partie du public, à la découverte d'une œuvre qui méritait d'être entendue et réentendue.
Serge, je choisis votre avis sur l'interprétation qu'on a entendue vendredi de cette œuvre assez singulière. Hein.
Alors, cette interprétation, elle a coulé vraiment au sens dramatique de l'œuvre. Alors, c'est une œuvre très complexe. Très complexe. Oui. Le premier mouvement est hallucinant. Enfin, on passe d'une séquence à une autre. Elle s'ouvre sur un cri d'angoisse épouvanté. Enfin, c'est effrayant, hein, quand on va au fond de l'impression qui reste à l'écoute de cette symphonie. Et puis, effectivement, comme le disait Anne-Marie, elle n'était pas du tout dans la direction de l'époque, surtout stalinienne. Et donc, il a fallu attendre la mort de Staline en 53, le même jour que ce pauvre Prokofiev, ce qui est incroyable, pour que Chostakovitch retrouve un peu de facilité dans l'exercice de ses fonctions. Mais elle était tellement loin de l'idéal optimiste du régime, puisque c'est quand même une symphonie qui s'achève sur une allée vers la mort. Petit à petit, on va vers le néant.
Hein, on parlait d'angoisse, c'est très présent tout au long.
Tout au long, déjà. Et puis la fin, c'est le silence de la mort. Hein, donc c'est terrible. Et donc, effectivement, comme Anne-Marie, j'ai été tout à fait sensible et même ébloui par la qualité orchestrale, la qualité des solos. Enfin, il y a des solos terribles à donner par le violon, par le corps anglais, le trombone, dans le dernier mouvement, un solo incroyable à donner. On a l'impression que ce trombone est diabolique. C'était vraiment impressionnant. Et tout le pupitre de flûte aussi, qui a des passages ahurissants à donner. Donc vraiment, ça a été un grand moment que cette symphonie, qui a été redonnée d'ailleurs le lendemain
pour les étudiants,
en un concert gratuit qui leur était offert.
Alors, vous parlez de la flûte, on a un éminent représentant du pupitre de flûte ici, Claude Robichou, vous qui avez vécu de l'intérieur l'interprétation de cette œuvre. D'abord, est-ce que c'était la première fois que vous la jouiez ?
Oui, c'était la première fois.
Cette découverte, vous l'avez vécue comment ?
Passionnante, comme un petit peu toutes ces symphonies de Chostakovitch, puisque nous qui sommes musiciens intervenants, si j'ose dire techniciens de l'orchestre, musiciens, nous découvrons chaque fois un domaine musical très particulier. Chostakovitch utilise les instruments dans leurs extrêmes. Toujours. Alors, moi je suis spécialiste de la petite flûte, piccolo. Il utilise le piccolo dans des contrées très très éthérées, des choses qui sont musicalement, techniquement exigeantes, mais il l'associe souvent par exemple avec un basson, un contrebasson. Il aime les extrêmes, il aime associer du très grave avec du très aigu, dans des choses souvent très pointues, alors que ça pourrait être relativement simple à faire dans une nuance aisée. Ben, il le veut pianissimo, il le veut avec une certaine angoisse, etc. La découverte Chostakovitch chaque fois se fait avec enthousiasme et avec une certaine crainte liée à l'exigence de ce que veut le compositeur.
Serge Krzyzewski, votre avis sur alors, la complexité de la composition des symphonies de Chostakovitch ?
Alors, simplement, j'ai envie de dire deux choses. C'est qu'effectivement, c'est une musique qui est très difficile à interpréter, en particulier pour les solistes, parce qu'elle fait alterner de façon quasiment systématique des blocs extrêmement massifs de tutis fracassants et tout d'un coup plus rien. Et là, un solo très long, très très long, tout seul, pour le piccolo, pour le basson, souvent, la clarinette. Le cor anglais, oui. Et ça, c'est très très fréquent. Bon, c'est une œuvre qui procède de l'univers mahlérien. Hein. Chostakovitch n'en est pas du tout caché. Alors, par contre, l'utilisation des instruments est assez différente. Évidemment, aussi, l'harmonie, enfin, est une harmonie plus moderne, c'est-à-dire l'écriture harmonique, les accords. Bon, il y a beaucoup plus de dissonance que chez Mahler. Ça, c'est une chose. Et d'une manière plus générale, c'est une musique qui va très très loin, émotionnellement, qui va encore plus loin crois que Mahler n'allait déjà assez loin, mais qui va très très loin dans l'hystérie, par exemple, dans le sombre, dans le glauque, dans le lugubre. Il peut aller extrêmement loin, c'est par moments complètement dépressif, c'est par moments du cirque, tellement c'est l'envers, au contraire, tellement c'est joyeux, exhilarant, exubérant. Et voilà, il y a des choses extrêmement variées, très intenses. Et donc ça, évidemment, on le prend aussi en jouant, en écoutant ce qui se passe autour de nous. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai joué la 10e de symphonie, qui est un scherzo qui est absolument infernal, on dit même que ce serait le portrait de Joseph Staline, des moments de frayeur de ce que j'entendais, des pupitres de corps, pas parce que c'était mal joué, c'était extrêmement bien joué, mais c'est une écriture effrayante. Et donc, il y a beaucoup de moments d'effroi qu'on ressent en premier. Hein, on est au milieu de tout ça, voilà.
Il y a quelque chose, je trouve, du cinéma expressionniste un peu dans ses œuvres, dans ce qu'on ressent.
Oui, alors, on encourage beaucoup tous les auditeurs à aller voir le cycle Eisenstein en ce moment à la Cinémathèque de Toulouse. On pourrait en parler pendant une heure.
Il a composé des musiques pour lui.
Alors pas pour Eisenstein, ça c'est Prokofiev, mais il a écrit de la musique pour le cinéma soviétique, certainement.
C'est Dovzhenko, je ne sais plus lequel. Enfin,
il y a eu Kosintsev, il y a eu La Nouvelle Babylone, Kosintsev, Trauberg, il y a eu plusieurs films, mais c'est vrai qu'au niveau du parcours qu'a eu Shostakovich, il est parallèle à celui d'Eisenstein, c'est-à-dire une disgrâce à un moment. La 4e symphonie arrive au pire moment, c'est-à-dire 1934-36, parce qu'elle croise la montée au pouvoir de Joseph Staline et puis son premier grand moment de paranoïa. Ce ne sera pas le dernier.
Oui, il y en aura beaucoup d'autres jusqu'en 53. Bon, alors on va écouter là aussi un extrait de cette 4e symphonie de Shostakovich interprétée par l'Orchestre National du Capitole. Le premier mouvement, vous allez voir, Serge Chosy parlait d'angoisse, c'est vraiment ça. Le premier mouvement de la 4e symphonie de Shostakovich, tel que l'interprétait vendredi dernier à la Lohgrin, l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev. Eh bien, nous allons rester à la Lohgrin, tout en changeant radicalement d'univers, en abordant maintenant le concert exceptionnel qui a donné Daniel Barenboim lundi pour la saison des grands interprètes. Exceptionnel parce que c'était la première fois que cet immense musicien se produisait à Toulouse, et aussi parce qu'il a interprété un magnifique programme entièrement consacré à Claude Debussy et à une bonne partie de son œuvre pour piano seul. Et là, je vais encore me tourner vers mes amis Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy, vers le Debussyiste et celle qui l'est un peu moins. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit il y a 2 semaines. Tout de même, Anne-Marie, c'est formidable cette musique, non ?
Oui, là, ça m'a vraiment prouvé que l'on pouvait interpréter Debussy et me donner vraiment le plaisir d'écouter la musique pour piano de Debussy, que j'ai déjà écoutée, bien sûr, mais peut-être pas de façon aussi intense et en même temps dans un concert uniquement consacré à Debussy. C'est quand même assez rare. Et Daniel Barenboim, il faut le préciser, j'ai appris ça après le concert, voyage avec son propre piano.
Et oui, on a pu le constater, d'ailleurs, c'est bien écrit Barenboim sur son piano.
Oui, ça n'est ni un Steinway, ni un Bösendorf.
C'est un Barenboim.
C'est un Barenboim.
Voilà. Et donc, il donne une interprétation de cette œuvre qui est vraiment d'une profondeur extraordinaire, en même temps d'une beauté de son, d'une clarté de conception, d'une attention permanente à la cohérence d'un discours, en même temps sa poésie, à la beauté des sons, etc. Il y a vraiment de la profondeur. Toute la poésie de Debussy transparaît et je dois dire que là, ça confirme la qualité d'un grand du piano qu'on n'avait jamais entendu à Toulouse et que je n'avais jamais non plus entendu en récital ou en concert, qui donc peut interpréter de cette manière un compositeur français qui mérite d'être défendu, la preuve.
Serge.
Oui, ben, c'était vraiment un grand moment. Il faut quand même rappeler que Daniel Barenboim est autant chef d'orchestre que pianiste. Il a d'abord débuté comme pianiste, évidemment, et puis il a vite pris la baguette, et donc il fait les deux. J'ai eu la chance de l'acclamer à Bayreuth lorsqu'il dirigeait la tétralogie ou Tristan. C'est un immense musicien, hein, c'est évident. Et le fait qu'il ne soit jamais venu à Toulouse.
Là, on en a eu confirmation de sa propre bouche. Il a dit, je n'ai jamais joué à Toulouse.
Bon. Exactement. Donc c'était vraiment un concert événement. Alors, c'est amusant comme il a interprété de manière différente la première et la deuxième partie. La première partie, qui était consacrée au premier livre des préludes, elle bénéficiait d'une vision à la fois d'un ton de confidence, d'une vision très intériorisée, très fine, très détaillée. Alors que la deuxième partie, qui était consacrée aux estampes, aux arabesques et à la fameuse île joyeuse, là, il y avait même de l'ironie, et de la légèreté, de la grâce. Donc vraiment, il y avait ces deux aspects dans ces deux parties. Mais pour en revenir au prélude, bon, il y avait des moments intenses d'une beauté extraordinaire. Je pense à Des pas sur la neige, où là, vraiment, c'était sublimement timbré, avec les couleurs qui conviennent, que l'on attend.
Le son était magnifique, ça, là-dessus.
Le son magnifique, avec ce fameux piano qu'il a fait fabriquer lui-même, pour lui, qui a une sonorité très particulière, assez feutrée, qui va très très bien avec
Pour cette musique, ça va très bien.
Oui, c'était parfait. Donc, un grand moment, qui s'est conclu par un bis de rêve, le fameux Clair de Lune, qui est extrait de la suite Bergamasque, qu'il a joué avec une espèce de rêve, il a mis de la magie là-dedans.
Les notes s'évaporaient.
Ah oui. Non, mais c'était idéal. Il restait plus qu'à partir vite et à dormir d'un sommeil calme et tranquille.
Des sons très ronds. Nos amis musiciens qui sont autour de cette table, Claude et Serge, est-ce que vous avez l'occasion d'être dirigé par Barenboim, l'un ou l'autre, éventuellement ?
Eh bien, non. Ça aurait pu quand il était à l'Orchestre de Paris.
Eh oui.
Mais ça fait déjà quelques années maintenant. Mais non, ça n'a pas été le cas.
Moi, j'ai eu la chance d'être plusieurs fois dirigé par lui, oui. De jouer sous sa direction. On a enregistré aussi le Sacre du Printemps avec l'Orchestre de Paris. Et puis, effectivement, avant son départ en 89, donc j'ai fait une grande tournée où il y avait du Debussy. Il y avait les trois images pour orchestre, hein, magnifiques, qui contiennent Iberia, Ronde de Printemps, Gigue. Voilà, on avait fait la Missa Solemnis, enfin, beaucoup de choses splendides qui sont des souvenirs, évidemment. Hildegard Behrens dans le deuxième acte de Tristan, juste avant Bayreuth. Donc, des souvenirs fabuleux, oui, avec musiciens excellents et français, forcément, à l'Orchestre de Paris. Hein.
Et qu'est-ce que vous pensez du pianiste Barenboim ?
Barenboim est forcément un très grand pianiste. Moi, je l'ai surtout connu et apprécié d'abord par Mozart et Beethoven, un petit peu Liszt. Je dois dire que je connais un petit peu moins bien le versant plus récent, donc avec Debussy, que j'ai écouté plus sous les doigts de Christian Zimmermann ou bien évidemment Arturo Benedetti, Michelangeli ou bien d'autres, enfin des Français, etc. Barenboim, je connais moins bien, mais bon, évidemment, d'une manière générale, il a une très très grande stature. Hein. C'est un musicien impressionnant. Il a eu également récemment son travail avec l'orchestre du Divan occidental-oriental, avec les Palestiniens, les Israéliens, tous les jeunes de cette région très tourmentée qu'il a essayé de réunir. Donc un beau travail avec Edward Said.
On va préciser que c'est peut-être ce que vous vouliez ajouter, Serge, vous vouliez me faire signe qu'il a été décoré de la médaille de la ville de Toulouse.
Exactement.
À l'entracte. Pas à la fin du concert, à l'entracte. Il n'a pas voulu, je crois, que ça se passe devant le public. Il a voulu que ça se passe dans la discrétion.
Cela devait se passer à la fin du concert sur le plateau.
Comme pour Alfred Brendel.
Voilà, oui. Et puis, non, il a voulu que ça se passe pendant l'entracte, dans le foyer de l'orchestre. Plus discrètement, c'est incroyable.
C'est tout à son honneur, nous avons été privés de la cérémonie, mais c'est pas très grave. On a eu le concert était magnifique. On va écouter Daniel Barenboim dans Debussy. Il s'agit d'un extrait du premier livre des préludes, un extrait qui s'intitule Voile. Voile, écoutez. Thank you. Voile, un des morceaux du livre 1 des préludes de Claude Debussy, interprété par Daniel Barenboim, avec lequel nous refermons le premier chapitre de cette émission. Rendez-vous dans une minute pour la seconde partie et l'agenda. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour La Voix du Midi et le site Culture 31, Serge Krichelski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et donc notre invité d'honneur, Claude Roubichou, flûtiste de l'Orchestre National du Capitole, fondateur et directeur de l'Orchestre Mozart.
Mélomanie. L'agenda.
Et c'est avec Claude Roubichou que nous ouvrons la partie consacrée à l'agenda de la semaine à venir. Vous allez donc vous produire avec l'Orchestre Mozart à Toulouse ce dimanche 21 janvier à 15h au Casino Théâtre Barrière. Et vous allez donner au cours de ce concert deux œuvres de devinez qui, Wolfgang Amadeus Mozart. Jusque-là, tout est logique. Au programme, il y a le fameux Requiem et le non moins fameux concerto pour piano numéro 23, pour lequel l'orchestre accompagne Marina Di Giorno. Nous allons parler de cette pianiste et de ce programme, bien sûr. Mais avant ça, je vais vous demander de nous en dire un peu plus sur cet orchestre que vous avez fondé en 2010. Si vous lui avez donné ce nom illustre, je crois que ce n'est pas seulement pour l'admiration que vous portez au grand compositeur autrichien. Il y a une autre raison qui est liée à la configuration et à la taille de cette formation. Expliquez-nous un peu ça.
Oui, alors l'Orchestre Mozart Toulouse, c'est une formation de type Mozart, c'est-à-dire que c'est l'orchestre dont disposait Mozart à son époque, une base de cordes, pas très nombreuses, une vingtaine de cordes, et quelques instruments de l'harmonie, c'est le type même de l'orchestre de Mannheim. C'était le rêve des compositeurs de cette époque-là, et cet embryon d'orchestre symphonique présentait des flûtes, des hautbois, des cors, des bassons, des timbales, et c'était à peu près tout. Sauf que Mozart ajoute des trombones pour son requiem, des cordes bassées à la place des clarinettes, j'ai oublié les clarinettes. Voilà, dans l'évolution orchestrale, musicale, entre l'époque classique, romantique et moderne, l'orchestre symphonique s'étoffe, devient de plus en plus gros. Au point où on était Mozart, on était dans une formation d'une trentaine de musiciens, formation de type Mozart.
Ce qui est le cas du vôtre, 30-40 musiciens.
Voilà, c'est ça, c'est le format maximum. Nous sommes un orchestre un petit peu hybride entre l'orchestre de chambre et l'orchestre symphonique et qui peut s'adapter à divers projets, diverses programmations, divers compositeurs, de l'orchestre de chambre à un petit orchestre symphonique.
Qui sont les musiciens qui composent l'orchestre Mozart ? Est-ce que ce sont d'abord tous que des professionnels ?
Oui, ce sont des professionnels ou des musiciens en passe de le devenir. L'idée était de prendre la suite de l'association AIDA qui soutient l'Orchestre National du Capitole et qui a proposé pendant plus de 20 ans des stages qu'ils appelaient en entreprise, puisqu'il s'agit d'entrepreneurs, des stages offerts à de jeunes musiciens, soit les plus grands élèves du conservatoire de région de Toulouse pour les cordes, et des élèves des conservatoires supérieurs nationaux de Paris et Lyon pour les pupitres d'harmonie. Tous les ans, plusieurs stagiaires venaient pendant près d'un mois, plusieurs sessions d'orchestre, donc pour faire un stage d'immersion en orchestre. Ces stagiaires, beaucoup ont irrigué tout le monde musical français et international, mais certains sont restés sur Toulouse. Certains travaillent par exemple avec l'orchestre de Pau, à Bayonne, à Carcassonne, dans les conservatoires de Toulouse, de Montauban, etc. Et l'idée était de rassembler ces jeunes musiciens restés là et de leur donner une deuxième dimension pédagogique ou de formation, au lieu d'être un seul violoniste perdu dans, non pas perdu, mais soutenu par une quinzaine de premiers violons, eh bien, on avait six stagiaires, anciens stagiaires, auxquels j'associe un violon solo de l'orchestre, un hautbois, un violoncelle, voilà.
Le répertoire de l'orchestre Mozart, justement le fait d'avoir cette formation 30-40 musiciens, ça permet une certaine souplesse qui vous permet d'explorer vraiment un répertoire très très large.
Oui, un répertoire très large. Alors le répertoire classique, le répertoire baroque déjà, et puis au-delà, le répertoire de l'orchestre de chambre, tout ce qui est sérénade, Tchaïkovski, Dvorak, etc. Et puis, oui, bien d'autres choses. Nous avons des projets, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure, avec Marina Di Giorno, en Aveyron, dont elle est originaire, et elle est directrice d'un festival Musicofolie. Et donc, nous avons un projet de jouer le concerto pour piano et trompette de Shostakovich, on y revient. Le répertoire peut être immense.
Alors aujourd'hui, à votre palmarès, depuis la création de l'orchestre en 2010, quelles sont les grandes œuvres que vous avez interprétées en concert ?
Alors, les grandes œuvres, les dernières symphonies de Mozart, les premières symphonies de Beethoven, une et deux, des petites symphonies de Schubert, la cinquième par exemple, qui est charmante.
Très mozartienne d'ailleurs.
Et puis nous avons fait aussi de l'opéra, nous avons fait pas mal d'accompagnement de solistes, trompette, piano, violon. Une des dimensions, une des volontés de cet orchestre, c'était aussi d'accompagner les jeunes artistes toulousains. Alors il y a eu l'époque Marie et Guillaume Chilem, Nathanaël Gouin, puis nous avons rencontré cette jeune trompettiste.
Lucienne Renaudin,
avec qui nous avons des projets encore. Voilà.
Vous produisez essentiellement dans la région ou vous pouvez vous produire partout où on vous appelle en fait ?
Oui, ça se peut. On a joué au Festival de la Chaise-Dieu, on a joué au Festival de la Vézère, à Millau, à Bordeaux.
À Colmar aussi, je crois, à Colmar, à Reims.
Oui, à Reims.
Donc vous avez déjà largement dépassé les frontières de la désormais grande région Occitanie.
Il y a eu aussi quelques voyages un petit peu plus baroques qui étaient des festivals de musique en mer. Donc là, c'était de l'international, mais...
Sur l'eau.
Alors,
une question que je vais poser aussi à Serge Kleszewski, parce que vous êtes tous les deux donc des musiciens d'orchestre à la base. Qu'est-ce qui vous a donné envie de diriger, d'avoir votre formation ? C'était une volonté d'indépendance ou c'est quelque chose qui vous titillait depuis longtemps ?
Me concernant, il y a une sorte de fascination quand même du chef d'orchestre, de son aura, de son travail, de ses capacités cognitives, de sa sapience quelque part et de la façon dont il peut transmettre tout ça. Moi, je suis issu d'une famille d'instituteurs et on m'a toujours inscrit dans un fil de formation et je dois dire que c'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé véritablement, mais c'est un peu le fait de Stéphane Cardon à l'époque, qui était chef d'orchestre associé
Michel Plasson,
qui un jour est venu me voir en me disant... On me donne une classe de direction au Conservatoire de Toulouse et je pense que ça pourrait t'intéresser. Je lui ai dit, mais pourquoi moi ? Il me dit, parce que je sens ça comme ça. Il y a un concours d'entrée dans 3 semaines, prépare et on verra après.
Et vous voilà, êtes laissé convaincre ?
Je me suis laissé faire, oui. Avec bonheur.
Alors Serge Kleszewski, vous, la direction d'orchestre ?
Moi, on peut dire que paradoxalement, c'est une chose à la fois assez ancienne et puis qui s'est réalisée par hasard, puisqu'effectivement, il y a eu ce cursus avec Stéphane Cardon, mais depuis l'époque, justement, où je jouais par intermittence à l'Orchestre de Paris, à l'Orchestre de l'Opéra, etc., et dès mes premiers pas avec les orchestres Lovengut ou l'Orchestre des Jeunes de l'Orchestre de Paris, j'ai très rapidement pris avec moi la partition d'orchestre pour accompagner les répétitions. Hein, et voilà, rentré chez moi, j'avais du mal à m'en défaire et j'ai toujours eu une passion pour le texte complet. Et je dois dire que moi, ce qui me fascine par-dessus tout dans ce travail, c'est la pensée du compositeur. Comment on peut réussir à transmettre une pensée musicale, des sons qu'on entend, enfin une inspiration sur une partition. Et puis après, il y a la dimension concrète de réalisation par les musiciens. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Enfin, c'est un problème très complexe, surtout en fonction des moyens qu'on peut avoir, parce que parfois les moyens, c'est beaucoup plus du bricolage qu'autre chose. Parfois, quand on dirige un orchestre avec des gros moyens, tout est beaucoup plus facile. C'est pas forcément plus intéressant, mais c'est plus facile. En tout cas, il n'en reste pas moins que le rapport, le fait de se confronter au compositeur, à la figure du compositeur mort, forcément, la plupart du temps, je trouve ça vertigineux. Voilà, voir une partition, imaginer ce que le compositeur a pu vouloir dire, essayer de résoudre à sa manière les questions qui restent en suspens, parce qu'il y en a toujours, même avec Mahler qui notait avec une précision maniaque ce qu'il souhaitait, il y a quand même toujours des choses à interpréter. Donc, cette dimension pour interpréter, qui est quand même importante quand on dirige, mais la dimension de, disons, le plaisir d'organiser idée, la dimension de dire ce qu'il faut faire ou de pouvoir, personnellement, me gêne plutôt qu'autre chose. Moi, personnellement, j'ai eu un fonctionnement le plus horizontal possible avec mon orchestre. Je ne sais pas si ça marche toujours, je ne sais pas ce que les musiciens en pensent. Après, c'est très personnel et surtout, j'ai le plaisir aussi de monter des œuvres qui sont un petit peu délaissées. On a fait, par exemple, c'est pas du tout par goût de la contradiction, absolument pas, mais des symphonies de Haydn peu jouées qui, d'après moi, méritent le déplacement. Même dans les concertos de Mozart, ceux qui sont souvent un petit peu moins interprétés que d'autres. Dans ce qui est à notre portée, essayez de faire ça.
Alors, je reviens à l'Orchestre Mozart. On va écouter l'Orchestre Mozart dans cette émission avec, vous en avez parlé, le concerto pour trompette de Hummel, interprété par Lucienne Renaudin-Vary avec vous. C'était il y a peu de temps.
Oh, je pense que l'enregistrement auquel vous faites référence a bien 4 ans.
4 ans, donc c'est un peu plus ancien que je ne le croyais. On l'écoute tout de suite, cet enregistrement du concerto pour trompette de Hummel. Lucienne Renaudin-Vary dans cette interprétation du concerto pour trompette de Hummel. Elle était accompagnée par l'orchestre Mozart. Orchestre Mozart donc qui se produit ce dimanche 21 janvier à 15h au Casino Théâtre Barrière pour une interprétation du Requiem de Mozart et du concerto pour piano numéro 23 du même Mozart. Et on va parler de ce programme maintenant avec vous Claude Robichaud parce que pour le Requiem il faut des choristes et il en faut beaucoup. Alors vous en avez combien avec vous là sur scène?
Il y en a beaucoup. En fait ce que j'ai souhaité c'est réunir les amis avec qui nous travaillons tous les ans pratiquement, l'ensemble vocal de Cugno, l'ensemble vocal de la Vallée du Tarn, des chœurs de Tarbes, de Saint-Gaudens et des amis du Chœur d'Air France.
C'est un vrai projet régional pour le coup.
Et oui, et donc nous attendons 200 choristes. Je précise que ce sont tous évidemment des choristes amateurs et l'orchestre Mozart Toulouse s'inscrit dans un projet convivial où la bonne entente, la bonne humeur et la convivialité sont à mon sens essentielles. Donc tout ça se passe très bien. Le Casino Barrière souhaitait avoir une programmation de musique classique et nous avons rencontré sa directrice artistique qui nous a dit que fait-on pour réussir un premier coup et remplir la salle. J'ai dit on fait un Requiem de Mozart.
Ben oui, parce qu'elle a toujours à venir.
On fait un Requiem de Mozart et puis on réussit ce coup-là et on parlera d'avenir ensuite.
Oui. Vous avez ajouté au Requiem de Mozart le fameux 23e concerto pour piano, magnifique, qu'on a entendu aussi pas mal au cinéma, qui a été pas mal utilisé. Et donc vous le montez avec cette jeune pianiste Marina Di Giorno, elle a un nom italien, mais elle est bien française.
Elle est française.
Et elle est même née à Toulouse.
Exactement.
Mais elle n'a pas fait ses études musicales à Toulouse. Expliquez-nous un peu, donnez-nous le CV de cette jeune pianiste.
Elle est née à Toulouse, rapidement partie. Elle a poursuivi ses études musicales d'abord à Montpellier. Elle a ensuite rejoint rapidement le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, puisqu'elle y était dès l'âge de 14 ans. Elle a reçu les conseils, la formation des grands maîtres, Bruno Ricotteau, Claire Désert, etc. Ensuite, la Haute École de Musique de Genève, si je ne me trompe pas, mais en tout cas quelque chose en Suisse. Et puis la voilà revenue dans ses terres de résidence de l'Aveyron, où elle a monté, avec l'aide de sa famille, un festival qui s'appelle une association Musique Arte et un festival Musicofolie, ce qui nous a beaucoup intéressés. Nous avons joué avec elle il y a 2 ans. Nous avons des projets pour cette année et les années futures aussi. Elle souhaite faire découvrir la musique en milieu scolaire, en milieu peu habitué à l'écoute de la musique, et ça c'est une résonance qui nous est très chère, puisque c'est un des objectifs de l'Orchestre Mozart Toulouse, de jouer dans des lieux non institutionnels forcément, et d'apporter la musique un petit peu là où elle ne se fait pas, auprès de personnes qui s'imaginent être, de temps en temps, le mot est fort, inculte, mais qui ne sont pas si incultes que ça.
C'est elle qui vous a proposé le 23e concerto, c'est vous qui lui avez dit on va jouer ça?
Non, c'est moi qui lui ai dit on va jouer ça, parce que le Casino Barrière était soucieux d'une programmation accessible à un type de public particulier, ce sont un petit peu leurs mots, hein, qui n'a pas trop l'habitude de la musique. J'ai dit donc on va jouer un tube, même deux, mais concernant le piano, bien sûr, particulièrement cet adagio du concerto, qui est un tube dans lequel certains pourront se retrouver, puisqu'il a été largement utilisé par le cinéma, la publicité, etc. Et faire une résonance, simplement, quand on vient au concert et qu'on a déjà entendu ou que quelque chose est inscrit dans le souvenir, eh bien, on se dit qu'on a sa place là et qu'on n'usurpe rien.
Concernant Marina Di Giorno, ce sera une première en concert avec elle, vous avez déjà joué?
On a déjà joué dans son festival à Cahors, à Millau. D'autres projets, au Nez-le-Château, quelques concerts dans la région à venir.
C'est-à-dire
encore.
Que son festival se déplace dans la région?
Oui.
Ah d'accord, je
oui.
pensais que c'était vraiment un lieu fixe. Non, c'est un festival, c'est presque une saison.
C'est ça, oui, ça dure un petit peu sur toute l'année, printemps, début de l'été, et des projets scolaires. Je dois intervenir prochainement dans des différentes classes avec elle. Et voilà, un très beau projet en relation avec le rectorat sur place. Voilà, c'est très bien.
Concernant le reste de la saison de l'Orchestre Mozart, est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates qui vont arriver, quelques lieux?
Alors les dates, pour les données, je ne suis pas très fort là dans la gestion des projets. Je sais qu'il y a au mois de mars, il y a un concert à Annemasse, et nous avons 2 représentations des Contes d'Hoffmann au Casino Barrière dans la saison des nouveautés lyriques. Il y a des projets de ciné-concert qui devraient se faire, j'espère, rapidement autour du 40e anniversaire du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, nous jouerons Ligeti.
Et oui,
vous voyez que...
Et là, on dit que le répertoire est vaste de l'Orchestre Mozart, effectivement.
Et ensuite, des concerts d'été, des festivals dans la région Midi-Pyrénées, Occitanie, pardon.
Oui, faut pas se tromper. Très bien, alors, nous allons écouter un tout petit peu de ce 23e concerto numéro 23, l'Adagio, le morceau que tout le monde connaît, effectivement, qui a été pas mal utilisé au cinéma, interprété par Marina Di Giorno. Écoutez...
Thank you.
l'adagio du 23e concerto pour piano de Mozart, interprété par Marina Di Giorno, que vous pourrez retrouver ce dimanche 21 janvier au Casino Théâtre Barrière de Toulouse avec l'orchestre Mozart pour un concert qui commence à 15h. Au programme, outre ce 23e concerto, il y a aussi le Requiem de Mozart et 200 choristes sur le plateau. Eh bien, nous en arrivons maintenant à la saison des Clés de Saint-Pierre, puisque dès le lendemain, le lundi 22 à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, a lieu le 3e rendez-vous de cette saison avec un concert intitulé Les années 30. Il y a 4 œuvres et 4 compositeurs au programme, mais 3 musiciens sur le plateau. Un trio violon, clarinette, piano, comme on en voit rarement d'ailleurs. Et là, je vais me tourner vers l'autre musicien de l'orchestre du Capitole qui dirige un orchestre. J'ai nommé Serge Krichewski. Il se trouve que vous êtes également membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Donc, très bien placé pour nous présenter ce concert, les musiciens qui s'y produisent et les œuvres qui vont y être jouées. Dites-nous tout en commençant peut-être par les 3 musiciens qu'on va entendre lundi.
Alors tout, je ne vais pas pouvoir vous dire tout, je vais vous en dire une partie de tout. Philippe Monferrand, David Minetti, clarinette et Sylvie Viviès au violon. Donc David Minetti et Philippe Monferrand au piano, bien sûr, on le connaît bien. Il est gersois et dans la région depuis longtemps, on fait beaucoup de bonne musique avec lui. Voilà, donc ça c'est pour les musiciens. Ensuite, vous avez dit les années 30, effectivement, les œuvres toutes écrites entre 1932-1939 de Khatchatourian, son trio assez long, en 4 mouvements. À Bartok, Contraste, écrite avec Benny Goodman et pour Benny Goodman, Joseph Sigeti également, terminée aux États-Unis, la période noire de Bartok, puisqu'il arrive en 40, il est obligé d'émigrer, de s'exiler, de quitter la Hongrie et l'Europe. Donc, entre ces deux œuvres de l'ex-bloc de l'Est, on va dire, il y a donc un Français, Darius Milhaud, et une originalité, Charles Ives, compositeur américain, qui retranscrit un largo qu'il a d'abord écrit pour violon, il le transcrit pour violon, piano et clarinette. D'abord violon et piano, et ça devient en 1934 cette formation pour trois. Donc Ives 34, Milhaud ça doit être 37, quelque chose comme ça, et Bartok le dernier.
Darius Milhaud qui a écrit beaucoup de musique de chambre. Je me posais la question évidemment de cette formation trio, violon, clarinette, piano. On pourrait penser comme ça que le répertoire est très restreint. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a plus d'œuvres qu'on pourrait croire?
Non, il est assez restreint. Bon, il y a une œuvre de Mozart intéressante, je crois que c'est avec alto, le trio des quilles, si je ne me trompe pas.
Qui a déjà été donné d'ailleurs dans la saison.
Il y a un magnifique trio avec violoncelle de Brahms, clarinette, piano, violoncelle, mais il n'y a pas non plus tant d'œuvres que ça. Il y a d'autres œuvres, il y a le Glinka, je crois, mais c'est originairement pour basson, pour piano, clarinette et basson, et souvent joué piano, clarinette, violoncelle. Voilà, il y a des œuvres effectivement romantiques, pré-romantiques, mais les œuvres, les contrastes, c'est une des œuvres principales pour cette formation.
Les 4 pièces qui vont être jouées, est-ce qu'il y en a certaines qui ont des particularités ?
Alors, on peut dire que déjà, en rapprochant Bartok et Khatchatourian, on a déjà 2 compositeurs qui mettent en avant leurs racines traditionnelles, populaires, folkloriques. Bartok avec la Hongrie, bien sûr, et Khatchatourian avec non seulement l'Arménie, mais toutes ces anciennes républiques soviétiques autour de la mer Noire, voilà, la Géorgie, la Turkménie, enfin tous ces folklores. Donc Khatchatourian s'est imprégné et qu'il a retranscrit, infusé, on va dire, dans sa musique après les avoir rendues un peu plus savantes. Mais bon, Khatchatourian n'a pas écrit beaucoup de musique de chambre, il est surtout connu, on connaît évidemment Gaïané, la danse du sabre, ces choses-là, des œuvres très très brillantes pour orchestre, les ballets, Spartacus, etc. Mais voilà, il y a quelques œuvres et toujours, il y a un très beau concerto pour violon qu'on a joué avec l'orchestre du Capitole, avec Sergueï Khatchatryan, et qui est aussi plein de belles mélodies d'origine arménienne. Enfin, vraiment, c'est très coloré.
On va écouter une de ces 4 pièces, une des 4 qui seront jouées ce lundi 22 janvier par les Clés de Saint-Pierre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors, ce n'est pas par chauvinisme, mais j'ai choisi celle de Darius Milhaud, sa suite opus 157B, l'ouverture. Thank you. l'ouverture de la suite opus 157B de Darius Milhaud, l'une des quatre œuvres au programme du concert Les années 30 que donnent les Clés de Saint-Pierre ce lundi 22 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. Il y aura donc quatre pièces pour trio, violon, clarinette et piano qui seront jouées ce jour-là. Le trio en sol mineur d'Aram Khachaturian, le largo de Charles Ives, la suite opus 157B que nous venons d'entendre de Darius Milhaud et donc les contrastes de Béla Bartok. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous les quatre, Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy, Serge Krichewski et Claude Robichoux pour votre venue et votre participation à ce numéro de Mélomanie. Je rappelle que l'orchestre Mozart, dirigé par Claude Robichoux, donne ce dimanche 21 janvier à Toulouse au Casino Théâtre Barrière à 15h. Un concert où vont être joués le concerto pour piano numéro 23 et le Requiem de Mozart. Vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site de l'orchestre www.orchestremozarttoulouse.fr. Ce même dimanche 21 janvier à 17h au Théâtre Garonne, concert donné par 6 musiciens de l'Orchestre National du Capitole avec un programme hispanisant d'œuvres de Corelli, Couperin, Padre Antonio Soler et Manuel de Falla. Pour en savoir plus et réserver, il y a le site du théâtre www.theatregaronne.com. Concernant le concert des Clés de Saint-Pierre ce lundi 22 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, notez le site pour vous informer et réserver www.lesclésdesaintpierre.org. Et enfin, je signale le prochain concert de la saison bleue. Il a lieu mardi 23 janvier à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs de Toulouse et il est donné par le pianiste François-Michel Rignol avec un programme intitulé « La musique pour piano » de Marcel Dupré. La régie technique de cette émission était assurée par Francky Guéret. Vous pouvez bien sûr réécouter ce numéro en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Très belle semaine musicale à tous.